L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Raymond Lévy, le président de l'AMJAB, les amis du musée judéo-alsacien de Buxwiller, pour nous parler d'une exposition saisonnière Rêve de verre sur la destinée des frères Niger et sur une journée consacrée à Leonard Cohen dans le cadre du mini-festival de musique juive. Ce sera le 22 septembre prochain. Raymond Lévy, bonjour.
Bonjour.
Première fois derrière notre micro ici dans les studios de Radio Judaïka, bienvenue.
Eh bien merci, il fallait bien une première, c'est aujourd'hui. Merci de m'accueillir.
Vous plutôt en général sur place, très actif, hein. Alors vous êtes le président de l'association, mais vous faites également des visites de synagogue avec des scolaires, des collégiens, des lycéens, très impliqués dans la culture juive de oui. Ce coin de l'Alsace ou en plus général.
Alors, c'est effectivement le nord de l'Alsace du Nord, en particulier tout ce qui est le musée de Buxwiller, mais aussi dans mon coin d'origine, qui est le coin de Niederbronn-les-Bains et Reichshoffen, où il y a quelques vestiges juifs, notamment une synagogue qui est assez remarquable.
C'est l'idée de transmettre, c'est l'idée d'être passeur de mémoire, c'est d'inscrire ce patrimoine juif dans le patrimoine alsacien, ce qui est le cas déjà.
C'est justement ça, c'est pour ça aussi que je préside une autre petite association qui s'appelle Achern, comme les amis des sites hébraïques des environs de Reichshoffen et Niederbronn-les-Bains, dont le but est de dire, repose sur le constat qu'il y avait pas loin de 10% de juifs en Alsace à la fin du 19e siècle ou au début du 20e, et que donc la culture alsacienne est faite de 10% de culture juive. Chose qu'on démontre assez facilement en visitant le musée, dont nous essayons d'appliquer le constat localement sur l'Alsace du Nord, et donc faire prendre conscience aux gens de cette réalité, comme notamment qu'en alsacien, tous les Alsaciens parlent du judéo-alsacien ou du hébreu sans le savoir. Et donc vous dites oui, visite de scolaires, visite de scolaires de tout niveau, oui, mais aussi d'adultes, alsaciens, français en général, allemands ou anglais ou étrangers, ou tous ceux qui veulent bien s'intéresser à notre action et à ce que nous avons à montrer.
Aujourd'hui, à Strasbourg, il y a une montée certaine de l'antisémitisme avec des actes, avec des endroits également très protégés. Est-ce que vous souffrez de ça également en zone rurale où il y a une vraie cohésion entre les communautés ?
Alors, jusqu'ici, non, nous n'avons jamais senti quoi que ce soit. Je voulais préciser aussi que les deux associations, que ce soit l'AMJAB ou Achern, sont constituées de membres juifs en minorité et non-juifs en majorité, ce qui démontre déjà quelque chose. Non, nous n'avons au quotidien, nous n'avons jamais eu ni de remarques, ni de manifestations d'hostilité, et je m'en réjouis, bien sûr.
Alors, on va revenir sur ce musée judéo-alsacien de Buxwiller. Alors, c'est dans la place de l'ancienne synagogue de Buxwiller. Elle date de 1842.
C'est ça.
Vous avez créé ce musée avec Gilbert Veil, qui nous a quittés
Reprendre, mais il faut laisser à César ce qui est à César. Ce musée est une création de Gilbert Veil, qui était le président fondateur de l'association et du musée, et qui était, comme je peux le dire, mon maître, tant et si bien que quand il est décédé en mars 2023, il fallait bien que la vie continue, et donc j'ai pris la présidence à sa place, mais en toute modestie, parce que je ne pense pas que j'arriverai jamais à sa cheville.
Voilà. Alors, ce musée, quel était son objectif ? Il y a une scénographie précise sur la vie des Juifs en milieu rural. Ça remonte à très très loin, au Moyen-Âge. Vous avez retrouvé des costumes, tout est mis en scène, il y a des jolies vitrines. C'est quelque chose, j'allais dire, de très ludique, de presque interactif pour échanger. C'est quoi le but de ce musée ? C'est de retranscrire justement cette vie rurale qu'on retrouve d'ailleurs énormément dans les rues de Buxwiller. Souvent, c'est couplé à cette visite dans les rues de Buxwiller où il y a encore aujourd'hui des traces, un mikvé ou des maisons importantes de la vie juive.
Alors oui, il y a ça, il y a plein de traces dans la ville de Buxwiller comme dans beaucoup de villes ou de villages alsaciens. puisqu'il y avait très peu de communes en Alsace où il n'y avait pas de synagogue. Il y en a très peu, moins de 30%. Ce qui indique d'ailleurs que pour des raisons historiques, la particularité même de ce judaïsme alsacien qui est d'être profondément rural. Pourquoi ? Parce que les villes de la Décapole avaient, au XIIe siècle, interdit aux Juifs de résider dans les villes. Donc il n'y avait pas de Juifs à Strasbourg. Mais il y en avait énormément dans le village le plus proche, qui était Bischheim à l'époque. Donc ce musée raconte la longue intégration des Juifs alsaciens, dont on ne sait pas très bien quand est-ce qu'ils sont arrivés. Il y a plein de légendes là-dessus, mais rien n'est prouvé. On a juste un acte notarié qui date du Xe siècle à peu près, qui indique la présence de Juifs, mais sinon on n'en sait pas plus. Et ça raconte la longue intégration, enfin avec des hauts et des bas, jusqu'à la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme et l'émancipation des Juifs en 1791, avec 2 ans de retard, mais bon, qui a lancé l'intégration et la reconnaissance des Juifs non pas à la France, mais à la République française qui les a émancipés. Et ensuite, les retours en arrière avec Napoléon, et puis on revient en avant, et puis il y a l'affaire Dreyfus, c'est encore un retour en arrière. Et puis, bien entendu, il y a le moment où la République tombe en 1940, et là, c'est la catastrophe absolue. Tout ça pour revenir à peu près en 1945 jusqu'à aujourd'hui, avec les problèmes qu'on connaît encore aujourd'hui. Mais c'est quand même l'histoire d'une intégration, à partir d'une culture qui était profondément rurale, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais qui est devenue urbaine à partir du moment où l'émancipation s'est faite, et grâce à ce qu'on appelle aujourd'hui l'ascenseur social, et qui, à l'époque, était l'école de la République.
Dans ce musée, je le disais, énormément d'objets, de documents certifiés, de plans. Vous êtes-vous toujours encore aujourd'hui à la recherche de ce qui a fait la richesse de cette vie juive en milieu rural ?
Bien sûr, bien sûr. Alors, je voudrais aussi préciser que on s'appelle musée. En fait, on devrait dire éco-musée, dans la mesure où nous ne sommes pas vraiment un musée de collection. On ne va pas présenter des grandes collections d'objets. On n'en a pas beaucoup. On en a, mais pas beaucoup. D'ailleurs, une grande partie des objets que nous avons nous sont prêtés par la Société d'histoire israélite d'Alsace-Lorraine, qui s'appelle aujourd'hui la Céjal. Mais nous sommes surtout un musée pédagogique qui explique les choses à travers des panneaux interactifs que Gilbert Weil avait conçu dès 1983. Et à cette époque-là, déjà, il avait appelé ça un éco-musée. Et je voudrais dire que quand il a commencé à concevoir son musée, puisqu'il l'a fait entièrement tout seul, quand il a commencé à concevoir son musée, à l'époque, il n'y en avait aucun, ni en Alsace, ni en France, ni en Europe. Il n'y avait aucun. Aujourd'hui, il y a des musées juifs dans toutes les grandes villes. En 1983, il n'y en avait aucun. Donc pour moi, c'est un génie, quoi. Alors après, on a l'avantage...
Aujourd'hui, on retrouve plus des musées autour de la Shoah et de la déportation. Mais c'est vrai que des musées avec des objets juifs, c'est plutôt inscrit dans les musées historiques des villes ou des grandes villes, comme on peut le voir à Strasbourg, d'ailleurs.
C'est ça, au musée historique, au musée alsacien, pardon, mais aussi au musée juif de Marmoutier, qui est un musée essentiellement d'objets. Chez nous, ce n'est pas du tout le cas. C'est autre chose, c'est de la pédagogie.
Et donc l'intérêt aussi de suivre une visite guidée pour entendre vos explications. Alors, j'ai eu la chance
de vous
suivre. C'est mieux. C'est toujours mieux pour le public, on va dire non averti, qui a envie de découvrir cette vie juive. Alors on va revenir à cette exposition saisonnière qui est en place depuis fin juillet au musée judéo-alsacien de Buxwiller, Rêve de verre. Alors c'est les frères Neiger. Les frères Neiger, Norbert et Moritz Max, créateurs de bijoux. Ils sont tchèques, ils ont été assassinés par les nazis en 41 au ghetto de Lodz en Pologne. Alors, comment s'articule cette exposition ? C'est plutôt l'historique de la famille Neiger. Est-ce que c'est plutôt leur œuvre qui reste encore aujourd'hui ?
Alors, c'est une exposition qui a en fait 3 sujets. l'histoire de la communauté juive de Tchécoslovaquie, enfin, qui n'était, oui, ou plutôt de Tchéquie et pas de Tchécoslovaquie. Ensuite, c'est l'histoire de la famille Naeger qui était venue de Pologne et dont les ancêtres sont venus de Pologne et qui s'est installée dans cette ville de Gablonz, comme on disait dans l'Empire austro-hongrois. Aujourd'hui, ça porte un nom tchèque que je ne voudrais pas trop massacrer en le prononçant, parce que je ne sais pas le tchèque. Et ce sont ces deux frères, donc juifs, qui ont créé leur entreprise de fabrication et de création de bijoux vers 1900. Ou 1895, un peu avant, dans cette ville de Gablonz qui fait partie des Sudètes, c'est-à-dire de la partie de la Tchéquie qui est germanophone, où la majorité des gens sont d'origine allemande et parlent l'allemand, et que Hitler a revendiqué en 40. Et c'est là tout le... Enfin, pas en 40, en 38 même.
En 38.
C'est même tout le drame qui se prépare à ce moment-là. Non, pas le drame, la tragédie. Tchéquie, pays du verre, hein, on pense au cristal de Bohême, bien sûr.
Bien sûr.
Et qui se sont lancés dans cette création de bijoux fantaisie. Alors, jusque-là, les bijoux, c'était des pierres précieuses montées sur des métaux précieux, et donc c'était d'un prix qui faisait que c'était réservé à une certaine élite financière, quelle que soit la région du monde. À cette période-là, au tournant du XXe siècle, se sont lancés les bijoux de fantaisie, accessibles à tout le monde, parce que c'était du métal normal, et les pierres précieuses étaient remplacées par des imitations en verre ou en émail. C'est ce qu'on a appelé le bijou fantaisie, et c'était ce grand mouvement qui a démarré vers 1900 avec Coco Chanel, avec René Lalique en France, et aussi du côté des pays de l'Est, ou même de la Tchéquie, avec Swarovski, et les frères Naeger et un certain nombre d'autres dans cette ville de Gablonz qui s'était un petit peu spécialisée dans ce domaine.
Donc la ville de Gablonz reste aujourd'hui encore connue pour avoir hébergé ces artistes de pâte de verre et de bijoux fantaisie.
Alors il y a eu les modes de l'époque. Avant 14, ça a été la mode japonisante. Donc on a fait des bijoux de style japonisant, puis de sinisant, de la mode chinoise. Et 1922, découverte du tombeau de Toutankhamon. Et de là, une égyptomanie qui s'empare du monde entier. Et évidemment, ils suivent ce courant et ils font beaucoup de bijoux de style égyptien, avec des scarabées, des toutes sortes de scènes, avec un raffinement dans la qualité qui est assez étonnant et extraordinaire. Et c'est toute cette histoire que raconte l'exposition, qui a été créée par une jeune femme allemande qui s'appelle Madeleine Wolf, qui est spécialiste en histoire de l'art et elle-même collectionneuse de ces bijoux des frères Naeger, qu'on ne trouve plus aujourd'hui sur le marché autrement que chez les collectionneurs et chez les spécialistes, puisqu'ils ont disparu dans la Shoah, leur fabrication avec. Et même s'ils avaient une renommée importante avant la Shoah, aujourd'hui, c'est évidemment, ça reste beaucoup plus confiné. Mais c'est donc une aventure à la fois humaine, juive, historique, l'histoire liée à la grande histoire, mais aussi technique et artistique, que cette exposition raconte, par cette proposition que nous avait faite de Madeleine Wolf, qui a donc créé cette exposition, créé le catalogue, ou plutôt le livre qui va avec, qui est en vente au musée, et qui est un bouquin qui fait 150 pages quand même, richement illustré de photos couleurs, etc. Et voilà.
Donc cette exposition qui a commencé en juillet dernier, c'est une exposition saisonnière, on a un petit peu de temps pour la voir, vous la laissez en place.
On la laisse en place jusqu'à la fin de la saison.
Ouais.
Alors nous, le musée va fermer comme tous les ans autour du 15 novembre, Donc on ferme quand il fait trop froid. Si jamais, avec le changement climatique, il faisait encore chaud le 15 novembre, ça m'étonnerait, on prolongerait l'ouverture. Mais sinon, à un moment donné, c'est plus possible. Et donc, le musée se ferme et n'accueille plus que des groupes qui le veillent bien sur un rendez-vous, à condition qu'ils portent des grosses chaussettes et des doudounes. Voilà.
Alors, on va parler d'un autre événement. On va en parler rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps. C'est une journée hommage à Leonard Cohen, le 22 septembre. Ça, c'est dans le cadre du mini-festival de musique juive du pays de Hanau et de la Petite Pierre. Alors, Leonard Cohen, artiste protéiforme, peintre, romancier, dont les chansons Suzanne, Alléluia ou Bird on the Wire nous ont tous profondément marqués.
Oui.
Mais vous, ce que vous mettez en avant avec une conférence, c'est son humanisme,
c'est
sa judéité, parce que c'est quelque chose qu'il transmettait et qui était important pour lui.
Absolument, tout à fait. Alors je voudrais d'abord repréciser le cadre. Alors effectivement, nous sommes sous l'égide du mini-festival de musique juive, mais aussi sous l'égide de la Journée européenne de la culture et du patrimoine juif. Chaque année, on essaye de faire un événement dans les deux cadres. Et aussi, il se trouve que le 22 septembre, c'est la journée du patrimoine national. Donc tout ça se télescope un peu, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Et voilà. Alors, une journée tribute to Leonard Cohen, qui était donc un Canadien, un petit peu francophone quand même. Ça va se dérouler en... Alors, évidemment, on ne va pas avoir Leonard Cohen en personne, puisqu'il n'est pas de ce monde. Il n'est plus de ce monde. Ça ne sera pas non plus réellement musical. Ça sera... Il y aura deux points. On va commencer par une conférence sur sa biographie par M. Christophe Lebold, qui est d'une part prof d'anglais à l'Université de Strasbourg, et qui fait un cours, il est maître de conférence, et il fait un cours sur le rock. Et à l'intérieur de ce rock, il s'est intéressé plus particulièrement à Leonard Cohen, à tel point qu'il vient de sortir une biographie qui fait 700 pages, et qui s'appelle « Leonard Cohen, l'homme qui faisait tomber les anges ». Et donc il nous fera une conférence sur la biographie de Leonard Cohen à 14h30 au musée Julio-Alsacien.
La suite des événements à 17h, la projection du film de Tony Palmer, le documentaire Leonard Cohen, Bird on a Wire, donc de sa chanson. Alors c'est un documentaire qui remonte à 1972.
C'est
l'intérêt de ce documentaire
C'est de raconter un petit peu des moments forts de sa vie, qui a été faite quand même de dépression, de moments plus joyeux, de moments où il s'est recherché, de moments où il a perdu le public et puis il l'a retrouvé, de tous ces hauts et ces bas qui font une vie, notamment quand il a chanté pour l'armée pour Tzahal en Israël. Ça reprend toute cette vie. Et aussi sa poésie, puisqu'il a écrit des chansons, mais il a surtout écrit des poèmes.
C'est vrai, c'est ce que je disais, artiste protéiforme. Oui. Il y a une réservation pour assister.
Non. Alors on a une centaine de places. Pour la conférence, on a une centaine de places. Premier arrivé, premier servi.
et tout pareil pour la projection du film.
Tout pareil. Sauf que la projection ne se passera pas dans le même lieu. Nous faisons ça en association avec une autre association de Bouxwiller qui s'appelle le Théâtre du Marché au Grain, donc qui se trouve au Centre culturel de Bouxwiller et qui ont une salle qui est bien mieux adaptée aux projections que la nôtre. Ça se trouve à 5 minutes à pied. Donc à la fin de la conférence, après le jeu des questions et des réponses, eh bien, on ira en déambulation à travers Bouxwiller, on se rendra tranquillement vers la salle de la projection.
Raymond Lévy, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions donc, sur cette exposition Rêve de verre des frères Naiger et sur cette journée le 22 septembre consacrée à Leonard Cohen. Donc je rappelle, vous êtes président de l'AMJAB, les amis du musée judéo-alsacien de Bouxwiller, et nous étions ravis de vous recevoir. Merci.
Eh bien, merci de votre gentillesse, et puis à une autre fois.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.